de son œuvre. Vous écoutez France Inter, 15h03.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Je vous donne rendez-vous pour des enregistrements en public du jeu des 1000 euros. Aujourd'hui, mardi, dans les Pyrénées-Orientales, aux Angles, à 18h30. Et demain, mercredi, dans l'Aude, à Couiza, également à 18h30. À très bientôt.
France Inter.
La voix est libre. Tout de suite, là-bas, si j'y suis avec Daniel Mermet, c'est sur Inter.
Il est actuellement 7h30, là, sur les barricades de la zone à défendre à Notre-Dame-des-Landes. La nuit était plutôt calme. En ce moment, je suis en train de me faire une petite omelette au coin du feu, là. Et aucun mouvement de gendarmes mobiles à l'horizon. Les Rouges-Gorges, les Rois-de-Paix, Triple-Bandeau, les Vanneaux-Huppés vont pouvoir se réveiller tranquillement encore ce matin, comme les Tritons, comme les Salamandres, et toute cette végétation typique d'une zone humide. 2000 hectares sont à défendre. Ici, on tient bon. On tiendra encore très très longtemps, et ça aussi grâce au soutien de tous ceux qui nous envoient à manger, des vêtements, etc. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous, et puis gardez le sourire, attention, c'est contagieux.
Oui, bonjour, j'habite pas loin de Notre-Dame-des-Landes, j'habiterai à l'autre bout de la France, ce serait exactement pareil. J'en ai un peu assez d'entendre tous ces gens-là, être contre, et tous les autres d'ailleurs, tout le monde est toujours contre tout. On était contre Sarkozy, on est contre Hollande, on était contre Fillon, on est contre Hérault, etc. Il y en a un peu assez, les paysans, mais de quoi ils se plaignent ceux-là? Et un jour, il y en a un, quand vous faisiez des émissions dans le centre Bretagne avec Marcel Guillou, on n'est pas des empoisonneurs, on n'est pas des pollueurs, on n'est pas des profiteurs. J'aimerais savoir ce qu'ils font d'autre. Ils mettent du maïs, ils utilisent beaucoup d'eau. Et allez, allons-y gaiement. Mais arrêtez de les plaindre et arrêtez de faire croire que c'est des pauvres malheureux dont tout le monde profite. C'est pas vrai, c'est eux qui sont les profiteurs. Et il y en a beaucoup parmi ces gens-là qui sont en train de faire des ronds de jambes là. Et ben c'est pour se faire voir. En réalité, ils seraient très contents d'arrêter parce que ça leur permettrait de toucher les sous et de plus rien foutre après. Faut quand même voir la part des choses et pas être toujours du même côté, Daniel. Faut réfléchir un peu et puis venir interviewer, savoir tout ce qui touche, savoir comment ça se passe pour eux. Non, mais c'est des gros. Enfin bref, c'est inintéressant, il faut arrêter avec ces gens-là.
Je vous appelle à propos de Notre-Dame-des-Landes, en fait je voulais donner un coup de main. Je possède une petite flotte de deltaplanes, j'en ai 16 en fait, et normalement je fais des baptêmes de l'air, vous voyez. Du coup on est installé pas très loin de Nantes et je me disais que je pouvais participer à la résistance parce que leur histoire d'aéroport c'est vraiment n'importe quoi. Alors bon, je vous soumets l'idée, on pourrait faire décoller mes 16 deltaplanes avec chacun une charge de reblochon fondu et les balancer sur les flics. Voilà.
On n'en parle pratiquement plus dans les médias, pourtant la résistance se poursuit à Notre-Dame-des-Landes. Alors, les AMG de Limoges, même si vous croyez tout savoir sur le sujet, venez rencontrer Jean-Pierre et Babette, opposants de la première heure au repère de Limoges, mercredi 5 décembre à 18h30, au bar des Folies, place des Jacobins.
On n'était pas des barbes bleues, ni des pelés, ni des galeux, porteurs de parasites. On n'était pas des spadassins, on venait du pays voisin, on venait en visite. On n'avait aucune intention de razzia, de déprédation, aucun but illicite. On venait pas piller chez eux, on venait pas gober leurs œufs, on venait en visite. On poussait pas des cris d'indiens, on avançait avec maintien et d'un pas qui hésite. On braquait pas des revolvers, on arrivait les bras ouverts, on venait en visite. Mais ils sont rentrés dans leur trou. Mais ils ont poussé les verrous dans un accord tacite. Ils ont fermé les contrevents, caché les femmes, les enfants, refusé la visite. On venait pas les sermonner, tenter de les endoctriner, pas leur prendre leur site. On venait leur dire en passant un petit bonjour innocent, on venait en visite. On venait pour se présenter, on venait pour les fréquenter, pour qu'ils nous plébiscitent. Dans l'espérance d'être admis et naturalisés amis, on venait en visite. Par malchance, ils n'ont pas voulu de notre amitié superflue que rien ne nécessite. Et l'on a refermé nos mains et l'on a rebroussé chemin, suspendu la visite, suspendu la visite. Chanson de Georges Brassens. Bonjour, je voulais réagir aux dernières émissions pour témoigner de la souffrance qu'il y a à être rejeté, banni ou tout simplement ignoré par les autres. Dire qu'il y a une vraie violence dans le milieu rural. Et d'ailleurs, les propos du monsieur dans la première émission, quand il dit « ça vaut rien, juste bon tiens un arbre comme ça, une ficelle », je trouve ça ignoble, inacceptable. Et je suis même surprise que des personnes n'aient pas réagi à ces propos. C'est de la discrimination banalisée qui sévit. Les imbéciles heureux ne supportent pas que l'on vienne sur leur terre, que l'on y vive, que l'on y soit différent. Et cela n'a rien à voir avec le statut social. Bien sûr, ceux qui ne foutent rien sont des cibles plus faciles. Mais c'est l'autre qui n'est pas accepté, parce qu'il est un autre. C'est terrible, les mots que l'on peut entendre dans de si beaux décors. Enfant, adolescente, adulte, combien de fois ai-je été choquée, blessée par ces mots de ceux qui étaient nés là, comme moi. J'ai changé de campagne, et là, on m'a menacée de mort dans mon jardin. Donc, ici, où je suis, là-bas, où je pourrais être, ailleurs, en campagne, c'est du pareil au même.
Salut Daniel, j'étais en train de repenser à ton émission sur ce qu'il faut bien appeler les esclaves modernes, qu'ils soient du Bangladesh, de Chine, d'Inde ou d'ailleurs. Et ça m'a fait penser à une étude qui a été produite par l'université américaine il y a quelques années sur le coût comparé des esclaves aux États-Unis pendant la grande période et noble période de l'esclavage et justement ces esclaves modernes. Eh bien, figure-toi que les esclaves d'antan revenaient beaucoup plus cher que les esclaves d'aujourd'hui. Parce que d'abord, il fallait les capturer. Ensuite, il fallait les transporter par bateau. La moitié mourait à fond de cale. Puis ensuite, il fallait les loger. Il fallait les nourrir, de préférence correctement, pour qu'ils puissent bosser dans les champs de coton 12 à 15 heures par jour. Et puis, il fallait engager des contremaîtres diplômés en maniement de fouet, de temps en temps en pendre un ou deux dans un arbre, histoire de donner l'exemple. Et donc tout ça fait que les esclaves d'antan revenaient beaucoup plus cher, deux à trois fois plus cher exactement, que les pseudo-travailleurs, donc les esclaves modernes d'aujourd'hui.
Merci pour tous ces messages et ce dernier message. Ça reste à vérifier, mais c'est très intéressant. C'est une puce à l'oreille, parmi d'autres. Merci en tout cas, cher AMG. Aujourd'hui, c'est notre émission mensuelle avec l'équipe du Monde Diplomatique. Mais je voulais vous dire auparavant qu'on a eu une très mauvaise nouvelle. C'est la mort de Michel Naudy. Michel Naudy, ceux qui ont vu le documentaire « Les nouveaux chiens de garde » se souviennent de lui. Il était présent dans ce film et particulièrement présent dans ce film. Il est mort dimanche, il s'est donné la mort. Il avait 60 ans et c'était un journaliste debout, tout simplement. Il avait été... On va lui consacrer une émission dans les jours prochains. On est assez ému quand même de cette mort. Il avait été directeur de la rédaction de l'Humanité, un des créateurs de l'hebdomadaire Politis. Et puis, il était rentré à FR3 dans les années 90-95. Et il avait une maille à partir lors d'une émission qui traitait des médias. Et il avait été placardé, on reviendra là-dessus, il avait été placardé simplement pour avoir fait preuve d'un peu d'audace et de sens critique, une audace qui devrait ne pas être simplement notre métier comme certains le font encore, mais c'est vrai, de moins en moins nombreux. Donc il avait été placardé, et il a été placardé comme ça pendant des années et des années. Et voilà, c'est cet homme-là qui était dans ce film, qui intervenait, qui n'avait pas cessé d'être très critique, d'avoir toute sa vie d'intellectuel, d'homme politique engagé et de journaliste engagé également. Et donc il est mort ce dimanche dernier. Le SNJ CGT lui rend hommage. Vous pouvez aller sur le site Acrimed où le texte du syndicat est publié. Décès de Michel Naudy. Adieu Michel, ils ont pris ta voix. Et on va l'entendre dans un échange qu'on avait avec lui au moment de la sortie du film Les Nouveaux Chiens de Garde. Il n'était pas avec nous dans le studio, mais il était là-bas dans son village, et il est intervenu sur sur l'essentiel, en fait, des problèmes de ce métier qui vous concerne, puisque c'est à vous que nous parlons. On n'est pas en train de parler d'un métier comme ça, d'une manière corporatiste, mais de la situation des journalistes et des médias aujourd'hui, notamment des journalistes et des médias dans le service public. Voilà ce qu'il disait de la façon dont, dont la gauche, dont les gouvernements de gauche se sont conduits vis-à-vis des médias, ce qui devrait être un appel du pied à ce qui pourrait être transformé ou ce que certains, certaines transformations sont appelées par certains de leurs vœux. Michel nous dit, c'était en janvier, le 5 janvier 2012, au, dans la basse édition.
Et je voudrais dire deux choses parce qu'il me semble que la responsabilité de la social-démocratie...
Michel Naudy, La Basse, j'y suis, 5 janvier 2012.
...dans l'affaissement des médias, c'est-à-dire son ralliement à la logique financière, a joué un rôle considérable dans l'abattardissement de l'information dans ce pays. J'en veux pour preuve plusieurs éléments. Il m'a semblé, du point de vue où j'étais, donc à l'intérieur de la 3, que l'arrivée de Jospin... lors de la cohabitation. L'arrivée de Jospin a correspondu exactement à la renonciation des socialistes. Je pense que l'affaire monte à 83. 83, la gauche n'est plus de gauche, elle adopte les principes de M. Delors. Mais il a fallu du temps pour que les choses se réalisent. Et j'ai eu le sentiment que le PS ne voulait plus mener de bataille idéologique sur la question des médias pour l'excellente raison que sur le fond, il n'y a pas de différence entre les deux. Et regardez, un nom vient d'être prononcé, celui de Jean-Michel Apathy, chroniqueur politique à RTL. Savez-vous où ce garçon a-t-il commencé sa carrière de journaliste? Ben vous ne le savez pas. Donc je vais vous le dire. Je l'ai recruté comme journaliste politique à Politis.
Eh ben dis donc.
Journal très à gauche. Oui, je sais, c'est pas la meilleure des choses que j'ai faites.
Tu l'as dit.
Savez-vous où a commencé sa carrière politique, Monsieur Adler?
À l'Humanité.
Alexandre.
À l'Humanité.
Parti communiste.
Oui, oui.
Il était prof à l'école normale de Lille, prof communiste. C'est dire aussi comment...
Sans parler de Michel Field.
La capacité d'absorption des élites de gauche, entre guillemets, par l'idéologie dominante. Mais de ce point de vue, la renonciation par Jospin et ses amis à mener une véritable politique d'ouverture pluraliste à la télévision et à la radio... de mon point de vue, est une responsabilité majeure. Il faut faire du contournement.
Oui,
si je peux... à gagner la bataille idéologique avant de gagner la bataille politique. Excusez-moi de cet archaïsme, je suis gramscien. Je pense que les esprits, il faut les conquérir un à un désormais, que c'est notre tâche, notamment sur les questions du pluralisme de l'information.
Voilà la voix de Michel Naudy, journaliste qui a disparu, donc qui s'est donné la mort ce dimanche dernier et dont nous parlerons dans, prochainement dans la basse, j'y suis, autour du thème qu'il vient d'évoquer, qui est un, vous le savez bien, un thème central. Aujourd'hui donc, on se retrouve avec l'équipe du Monde Diplomatique. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour, Emmanuel Coulet, je suis dans la manifestation à Lyon contre le Lyon-Turin et plus généralement contre les autres projets inutiles, que ce soit Notre-Dame-des-Landes ou l'OL Land. Et donc nous sommes là pour manifester notre opposition à un projet qui n'a aucune utilité, un gaspillage d'argent public qui est absolument énorme. Nous avons besoin d'investissements dans la santé, dans l'éducation, mais pas dans les infrastructures inutiles et pas dans un Lyon-Turin qui ne servira à rien. Infrastructure inutile, comme l'a signalé la Cour des comptes.
Avis à la population. Cette semaine, du 5 au 9 décembre, au théâtre de l'Épée de Bois, à la Cartoucherie de Vincennes, nous allons faire au théâtre ce que nous devrions faire hors du théâtre. Nous allons juger les banques. Bulles financières, subprimes, paradis fiscaux, ruines des États. Les crimes des banques seront révélés par ce tribunal populaire créé à Nice au contre G20. Spectacle à 19h, suivi d'un débat avec les militants d'attaque.
Bonjour à tous les auditeurs de la base, j'y suis. Demain mercredi, le café repère de Tréguier dans les Côtes d'Armor vous attend à partir de 19h, comme d'habitude, au café L'Aigle Noir, 17 rue Pelletier. Au programme, discussion sur l'actualité à partir d'articles de presse. À demain, 19h, L'Aigle Noir, Tréguier.
Ouais, salut, bah, c'est Georges Philippe, là, donc, bah, merci à vous, vraiment, merci. Vous avez parlé de tombes, de cimetières, il y a, si vous allez à Ouessant, il y a un truc fabuleux. Au cimetière de Ouessant, il y a une petite barrière, tout à fait jolie, une barrière bleue. Et sur cette barrière, il est écrit « Prière de fermer la barrière après votre passage ». Ben, moi, je trouve ça fabuleux, c'est de la pure poésie, c'est, je ne sais pas si c'est intentionnel, mais c'est magnifique. Et ben, merci encore et salut.
Salut, c'est Daniel Mermès, et là-bas, si j'y suis, Fanny Doumerou, Benoît Duteurtre, Agnès Sinaï, Serge Halimi, Alain Grèche. C'est notre émission mensuelle avec le monde diplomatique, pas si diplomatique que ça.
Flight number 2, arriving from New York.
There's no country on earth that
Barack Obama,
would tolerate
18 novembre 2012.
Missiles raining down on
aucun pays n'accepterait que des missiles tirés de l'extérieur de ses frontières pleuvent sur ses citoyens.
So, we are fully supportive of Israel's right to defend itself from missiles landing on
Nous soutenons donc absolument le droit qu'Israël a de se défendre contre des missiles tombant sur les maisons, les lieux de travail, au risque de tuer des civils.
And we will continue to support Israel's
Et nous
right
continuerons à soutenir Israël dans son droit à se défendre.
Alors, on est avec le monde diplomatique de ce mois de décembre et on commence avec Serge Halimi et un papier avec un titre encourageant. Tout est simple à Gaza. Effectivement, on commence avec cette phrase « Aucun pays n'accepterait que des missiles tirés de l'extérieur de ses frontières pleuvent sur ses citoyens ». Qui a dit ça ? C'est le président des États-Unis, il a bien raison, de s'insurger contre de tels abus. Sauf que ce n'est pas dans le sens qu'on pourrait supposer, selon vous.
Non, je pense que c'est une vérité d'évidence qu'aucun pays n'accepterait que des missiles tirés de l'extérieur de ses frontières pleuvent sur ses citoyens. La seule chose, c'est qu'au moment où Barack Obama prononçait ces mots, il n'avait à l'esprit que le sort des citoyens israéliens qui recevaient des roquettes. Et il ne lui venait pas à l'idée de penser au sort des habitants de Gaza qui subissaient les bombardements israéliens infiniment plus meurtriers. Et donc c'était un peu la chose qui m'avait frappé d'emblée, qui montrait bien la partialité américaine dans cette affaire, qui n'est pas vraiment une surprise. Et à vrai dire, ce qui est révélateur de ces événements récents, c'est que beaucoup de choses ne sont pas une surprise, y compris la manière dont on décrit ce qui se passe, puisque c'est toujours les mêmes figures de style, où c'est le terrorisme des assiégés qui justifie la riposte des assiégeants. On parle toujours de la riposte des Israéliens, comme si l'histoire commençait au moment précis où une roquette est tirée depuis Gaza sur le territoire israélien, et pas au moment antérieur où une action israélienne concernant les Palestiniens, une action de répression, provoque d'une certaine manière l'exaspération d'une partie de la population de Gaza qui décide d'employer les armes dont ils disposent. Donc ce langage de la riposte, qui est un langage qu'on entend beaucoup, l'idée que les Israéliens sont des victimes, alors même que ce sont des belligérants surarmés, l'une des principales armées du monde, et armée d'ailleurs par des matériels américains Apache ou F-16, ce qui aurait dû quand même entrer dans les considérations du président des États-Unis quand il a décrit la nature du conflit. Et puis la dernière idée, c'est qu'après tout, c'est un conflit qui oppose des régimes peu ragoûtants à la seule démocratie de la région. Ce discours aussi, on l'entend beaucoup, alors que le côté démocratique d'Israël est quelque chose qu'on peut discuter. Certes, il y a des élections, mais ce sont des élections qui portent au pouvoir une majorité de droite et d'extrême droite, avec comme ministre des Affaires étrangères un homme qui est raciste. Lorsqu'il y a eu des résultats de ce type en Autriche et même aux Pays-Bas, il y a eu une décision pendant quelques semaines ou quelques mois des pays de l'Union européenne qui visaient à boycotter ce pays-là, en estimant que la nature démocratique du pays était remise en cause par les pratiques politiques de ce gouvernement. Donc ce qui est un peu frappant, c'est qu'à quelques années d'intervalle, on a ces mêmes figures de style qui se déploient, qui présentent toujours l'action israélienne comme une riposte, le belligérant surarmé comme une victime, et ce belligérant surarmé qui riposte comme la seule démocratie de la région. Alors je dis c'est d'autant plus paradoxal, cette répétition de ces figures de style habituelles, que pour le reste, beaucoup de choses ont changé dans la région depuis la dernière attaque israélienne contre Gaza. D'abord, on ne peut pas dire qu'Israël soit la seule démocratie de la région, puisque en Tunisie, en Égypte, il y a eu des élections dont les États-Unis, l'Union européenne ont admis qu'elles étaient démocratiques. Donc Israël n'est plus seul dans ce statut de démocratie de la région. Et puis, par ailleurs, les grilles de lecture ont été sensiblement bouleversées depuis 2 ans, puisque je cite ce raccourci qui est assez intéressant de 2 chercheurs américains qui rappellent que les États-Unis sont alliés à l'Irak, qui est allié à l'Iran, qui soutient le régime syrien, que les États-Unis entendent renverser. Oui, il faut lire. C'est pas facile quand même à lire cette situation. Et il enchaîne. Les États-Unis sont également alliés au Qatar, qui subventionne le Hamas, et à l'Arabie saoudite, qui finance les salafistes, inspirateurs de djihadistes, décidés à tuer des Américains. Donc on pourrait se dire que ce bouleversement des grilles d'analyse justifierait une analyse un peu différente des affrontements entre les Israéliens et les Palestiniens. Et la dernière chose qui me paraissait aussi intéressante dans ce conflit à Gaza, c'est que la position de la France et la position de l'Union européenne a été très sensiblement en retrait de ce qu'elle était il y a quelques années, où on a l'impression qu'il n'y a plus, pour ainsi dire, de diplomatie européenne et plus beaucoup de diplomatie française, et où ces diplomaties-là s'alignent de plus en plus sur les présentations que les États-Unis font du conflit, même si lors du vote aux Nations Unies, la France et les États-Unis se sont exprimés différemment. Mais la chose intéressante, c'est que sur ce vote français, il y a eu un doute jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment, on s'est demandé si la France n'allait pas s'abstenir, alors que la dernière fois, du temps de Nicolas Sarkozy, elle avait voté en faveur des Palestiniens, en particulier lors de la question concernant la représentation à l'UNESCO. Donc on a eu l'impression qu'il y a eu un retrait de François Hollande par rapport aux positions qui n'étaient pas déjà particulièrement avancées de Nicolas Sarkozy. Et un retrait qui m'a paru d'autant plus intéressant qu'à peu près au même moment, François Hollande, qui a des tas de scrupules lorsqu'il s'agit des Palestiniens apparemment, et qui leur fait la leçon, qui leur adresse des remontrances, s'est rendu en Arabie saoudite, où le voyage semble s'être déroulé très bien, où ses hôtes n'ont pas eu à s'exposer à quelques critiques que ce soit. Et il me semble que l'une des caractéristiques quand même de cette région, c'est qu'il y a 2 régimes qui bénéficient d'une forme d'impunité quoi qu'ils fassent, qui sont le régime saoudien, pour des raisons évidemment économiques, financières, pétrolières, et le régime israélien.
Ok, alors Alain Grèche, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, hein. Ce que dit Serge n'est pas très encourageant. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, dans la mesure où l'autorité palestinienne a pu être reconnue aux Nations Unies comme observateur. Mais c'est quand même une avancée considérable qui a été fêtée en Cisjordanie, à Gaza aussi.
Oui, tout à fait, à Gaza aussi. C'est pas l'autorité palestinienne qui a été admise, c'est la Palestine comme État non membre observateur, un statut qui existe, qui lui donne un certain nombre de privilèges. Je crois que c'est très important et ça a été accueilli par tous les Palestiniens, aussi bien par les organisations politiques comme le Fatah de Mahmoud Abbas que le Hamas, que par la population, comme d'abord une victoire politique et diplomatique. C'est symbolique, c'est une manière de dire que la Palestine est sur la carte géopolitique et qu'elle ne va pas disparaître. Et c'est peut-être d'autant plus important que le discours un peu de beaucoup d'experts après les révolutions arabes, c'était de dire, regardez, finalement, ces révolutions arabes n'ont pas posé la question de la Palestine, ne sont pas intéressées par la Palestine. En fait, on se rend compte que ça reste quand même une question importante qu'on ne peut pas mettre sous le tapis. De ce point de vue, c'est effectivement un succès important. C'est un succès d'autant plus important qu'il a été approuvé par une majorité au-delà des 2/3, avec comme pays qui ont voté contre quelques îles mystérieuses dont personne ne connaît le nom ni même l'existence, les États-Unis, Israël, la Tchéquie, je crois, et le Canada. Donc c'est quand même très, très peu. Bon, sur le... En revanche, bon, l'Union européenne s'est abstenue, enfin, s'est divisée plutôt. La majorité a voté, comme la France a voté pour l'admission de cet État, mais un certain nombre d'autres pays se sont abstenus, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne, plusieurs pays ex-pays communistes, etc. Mais ça reste quand même une victoire politique et diplomatique importante, même si sur le terrain, ça ne change pas grand-chose. Mais il y a une autre dimension qui est peut-être celle qui inquiète le plus les Israéliens, c'est que ça donne à la Palestine des privilèges nouveaux en tant qu'État non membre observateur, celui d'adhérer aux différentes organisations internationales. Alors, une des organisations dont on va parler tout à l'heure, ce sera l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ils pourraient y adhérer, ce qui aurait d'ailleurs des conséquences assez étonnantes, parce que, d'une certaine manière, les Américains s'en retireraient, ce qui créerait des problèmes avec l'Iran aujourd'hui. Mais surtout, ils peuvent devenir membres de la Cour pénale internationale. Et donc, pouvoir poursuivre des responsables israéliens pour des crimes commis sur le territoire de la Palestine. Et dans les statuts de la Cour pénale internationale, la colonisation, c'est-à-dire l'installation de populations étrangères dans un lieu occupé, est un crime de guerre. C'est-à-dire que les colons, en étant simplement en Palestine, il y en a 500 000, commettent des crimes de guerre, et le gouvernement israélien, en favorisant la colonisation, commet des crimes de guerre. Et ça, c'est quelque chose qui serait important. C'est paradoxal aujourd'hui de voir plusieurs États occidentaux expliquer qu'ils ont fait pression sur les Palestiniens pour qu'ils renoncent à ce droit. C'est-à-dire les mêmes qui nous expliquent que la Cour pénale internationale, c'est très important pour juger les dictateurs, pour juger les crimes. Évidemment, on ne juge que quelques dictateurs africains, mais jamais d'autres responsables. Mais que c'est important, c'est le droit, une avancée de droit international. Disent, en ce qui concerne la Palestine, il faudrait que la Palestine se désiste de ce droit. C'est quand même assez paradoxal comme discours.
Quelles peuvent être les représailles israéliennes? Parce qu'elles sont déjà en route. On parle de nouvelles implantations, on parle surtout d'un blocage des financements qui arrivent à Ramallah.
En fait, les moyens d'action israéliens sont quand même assez limités. Dans le sens, ils peuvent accélérer la colonisation, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment, même l'annonce de ces 3000 logements. Je veux dire, la colonisation n'arrête pas. Elle continue de manière systématique, et notamment autour de Jérusalem, avec l'idée de couper Jérusalem Est, la Jérusalem arabe, du reste de la Cisjordanie. Donc ça continue. Serge parlait tout à l'heure du fait que ce parti qui va sans doute remporter les élections est un parti qui comporte des gens racistes, etc. Mais bientôt, je crois qu'on considérera Netanyahou comme un modéré, parce que aux élections internes qui ont eu lieu, les gens qui ont gagné à ces élections internes, et donc qui vont être députés du Likoud, sont des gens d'extrême droite. Il y a un personnage en particulier qui s'appelle Moshe Feiglin, qui est un colon qui vit dans les colonies, qui a fait l'apologie de Hitler en expliquant que Hitler, quand même, on ne pouvait pas dire que du mal de lui, il avait reconstruit l'Allemagne, il avait fait d'une bande de locteux des gens qui travaillaient, etc. Donc on est vraiment dans un virage à droite qui peut aussi expliquer...
Ouais, là, c'est assez radical comme
virage
à droite.
Là, c'est assez radical. Donc, l'autre possibilité qu'aurait le gouvernement israélien, c'est geler le paiement qui, en principe obligatoire, des droits de douane perçus par Israël et de ne plus les verser aux Palestiniens. Mais Israël est face à une contradiction parce que l'effondrement de l'autorité palestinienne, qui est un vrai risque, y compris un effondrement économique, c'est une catastrophe pour Israël. Il faut rappeler cette situation assez paradoxale. Avant 1993, Israël payait le coût de l'occupation, c'est-à-dire il payait les fonctionnaires, il payait l'ensemble des structures. Depuis 1993, l'occupation continue, mais les fonctionnaires sont payés par l'autorité palestinienne, c'est-à-dire globalement par l'Union européenne, c'est-à-dire par les subventions que nous donnons. Donc, le retour à la situation d'occupation directe, ça serait une catastrophe pour Israël. Donc, le gouvernement israélien est, je dirais, un peu déboussolé, il ne sait pas trop quoi faire. Mais en même temps, il faut le dire qu'il bénéficie d'un soutien massif de sa population. Je veux dire, depuis la guerre contre le Liban en 2006, pratiquement toutes les guerres ont été soutenues par l'ensemble de l'échiquier politique à 90%, y compris le mouvement La Paix Maintenant. Ça, c'est quelque chose qui montre un virage à droite de cette société qui est vraiment inquiétant et qui pèse sur toute possibilité de solution politique.
Là-bas, si j'y suis, 29 septembre 2011.
que tout le monde applaudisse et le soutien à Abou Mazen, le président palestinien.
Voilà, aujourd'hui, mercredi, c'est la grande manif aujourd'hui sur la place de l'Horloge. Toute la foule est assemblée, il y a une sono très très puissante. Pourquoi ? Parce qu'on veut soutenir la démarche de l'autorité palestinienne, de Mahmoud Abbas, auprès des Nations Unies. Il fera un discours ce vendredi pour demander la reconnaissance de l'État palestinien par les Nations Unies.
Par la communauté internationale.
Et on appelle ça, là on voit sur le mur, alors il y a une foule multicolore, comme on dit en bas, là, sur la place, avec des drapeaux, évidemment, des drapeaux palestiniens, des kéfiers, enfin, toute la foule qu'on peut imaginer. Et sur les maisons, tout autour, sur les buildings, sur les immeubles, il y a des grands panneaux, des grands drapeaux palestiniens. Il y a aussi énormément de médias sur les hauteurs, partout.
On a tous les drapeaux des pays qui ont déjà reconnu la Palestine.
Ah, d'accord.
Dans quelques pays européens, des pays arabes, des pays musulmans, des pays africains.
C'est ça. Et au total, on estime entre 120 et 130
Exactement.
États, ceux qui soutiennent l'initiative palestinienne. Et on a les deux leaders, évidemment, Arafat, Abou Mazen. Et au milieu, le dôme.
Le dôme du rocher, le symbole de Jérusalem.
Voilà, Al-Aqsa. Alain Grech, est-ce que vous avez travaillé, est-ce que le Diplo a travaillé sur l'empoisonnement, cette histoire d'empoisonnement d'Arafat ?
Oui, il y a eu un débat dès 2005 dans la presse israélienne, dont Amnon Kapeliouk, qui aujourd'hui décédé, qui était un de nos correspondants en Israël, a écrit là-dessus dans le monde
biographe politique. D'Arafat.
Biographe d'Arafat, qui a écrit... Lui, il était convaincu que c'était une action du Mossad et que c'était une décision qu'avait prise Sharon... de ne pas tuer Arafat. Il l'a fait aux Américains. Ensuite, Amnon Kapeliouk raconte une rencontre en 2004, je crois, entre le président Bush et Sharon, où Sharon dit « je ne pourrai plus tenir cette promesse ». Et Bush lui dit « si, il faudrait quand même, laissons à Dieu le soin de régler la question d'Arafat ». Et Sharon lui répond « il y a des manières d'aider Dieu ». Et on sait que les Israéliens ont développé des techniques très avancées d'empoisonnement des gens. Ils l'avaient essayé déjà en 1997 en essayant d'assassiner un des chefs du Hamas, Khaled Meshal, en essayant de l'assassiner en Jordanie. Et bon, l'opération a complètement raté et ils ont été obligés, les Israéliens, d'envoyer l'antidote au roi Hussein pour sauver Meshal parce qu'ils avaient peur d'une rupture des relations diplomatiques entre la Jordanie et Israël. Mais s'il n'y avait pas eu ce cafouillage, on n'aurait jamais pu détecter qu'il avait été assassiné. Donc il y a vraiment... on peut penser... Bon, ça ne sera pas une preuve, mais on peut penser qu'ils ont développé des techniques de ce point de vue très, très sophistiquées et qu'en 2005, ils ont décidé de se débarrasser d'Arafat. Simplement, la majorité des Palestiniens est convaincue de ça. Deuxièmement, même si l'exhumation prouve qu'il a été assassiné... On ne saura pas qui. Je veux dire, c'est pas parce qu'on aura découvert du poison qu'on pourra confirmer qui a commandité l'assassinat. Mais ça sera évidemment important et ça confortera l'opinion palestinienne dans ce qu'elle croit profondément.
قداه القرن عدى وقداه العام فات واليهود في بالهم لفزات وفرات رافير تاع فلسطين عام بالك وقتها بدات اكزاكتومون لو 2 نوفمبر 1917 نهار هذاك عبد الكشمار تاع العرب في الوقت هذاك الشيطان عرف كيفاه ضرب اليهود كانوا فاب ولي زونجلي كانوا فارا تفاهموا في بعضهم وداروا وعد تاع بالفارا ويقولوا فيه حاجة واحدة هي تهمهم اليهود متفرقين وفلسطين رايحة تلمهم سنياتور صغيرة جابت حرب كبيرة ستيل واحد كتب تاريخ كله كتيلة 15 مي 48 عم بالك وش يصير اليهود داروا اعلان قيام دولة اسرائيل الامريكان وكفت معاهم بالسلاح وليميسيل ودم حتى اليوم ودم العرب قاعد يسيل
عيوننا في عيني ترعى كل
Agnès Sinaï, l'Anthropocène. Je sais bien que ce n'est pas le sujet, hein, mais rappelez-nous ce que c'est votre terrain de recherche, d'activité.
Oui, l'Anthropocène, c'est un néologisme qui désire une ère géologique marquée dans ses développements les plus récents par l'industrialisation du monde. C'est un néologisme forgé par le prix Nobel de chimie Paul Crutzen, qui a obtenu le prix Nobel pour ses travaux sur la couche d'ozone en 1995. Et Paul Crutzen, constatant que la couche d'ozone se délitait, a pris la mesure de l'interaction de l'humanité avec la biosphère. Et il a dit, l'appellation classique de l'ère géologique dans laquelle nous sommes, l'Holocène, devrait être modifiée. On devrait appeler notre ère l'Anthropocène, l'ère dans laquelle l'humanité devient une force géologique à part entière, une force tellurique, au même titre que dans les ères antérieures, les volcans, les chutes de météorites, les glaciations étaient des facteurs de changement d'air géologique. Aujourd'hui, le facteur de changement de la biosphère, c'est l'humanité. C'est un facteur d'accélération des transformations.
À partir de la révolution industrielle, l'homme peut faire péter la planète.
Absolument. Et il a des munitions, et les munitions sont les carburants fossiles, principalement, qui font exploser la dose de carbone dans l'atmosphère, on le sait, et ça, c'est un des traceurs les plus marquants, les plus caractéristiques de cette ère de l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est une manière de modifier les cycles naturels. Hein, les cycles sont fermés, et l'humanité ouvre les cycles, mais pas à n'importe quelle humanité, l'humanité des sociétés industrielles. Donc l'Anthropocène est un néologisme intéressant parce que d'une part, il fait prendre conscience de la dimension d'accélération dans laquelle nous nous trouvons, et d'autre part, c'est une dimension de démesure aussi.
Mais heureusement, en matière d'énergie atomique, il y a des parapets, il y a des digues, exemple, l'Agence internationale de l'énergie atomique qui est là pour contrôler, pour vérifier et pour nous garantir contre les excès d'une telle énergie, n'est-ce pas ?
Absolument, cher Daniel Mermet. D'ailleurs, j'ai eu la chance, grâce au diplôme, d'aller faire un tour dans les locaux de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est sise à Vienne, capitale de l'Autriche, dans une tour cerclée de barbelés où il y a 4500 bureaux et où se réunissent périodiquement...
Où les journalistes sont pris en charge.
Et où les journalistes sont pris en charge et canalisés.
Documentés, des gens extrêmement malins, extrêmement doués.
Prévenant. Ouais, au point que les journalistes sont escortés, d'ailleurs, par une attachée de presse ou deux. Les documents sont assez ardus. Hein. En même temps, l'idéologie est simple. Hein. L'atome civil est un bienfait de l'humanité. Hein. C'est ce qu'affirme l'Agence internationale de l'énergie atomique dans ses statuts qui datent de 1957, une époque un peu lointaine aujourd'hui, marquée par la guerre froide, marquée par l'héritage des bombes d'Hiroshima et Nagasaki. Il fallait transformer la puissance nucléaire en vertu de l'atome civil. Hein. C'était une époque qui était marquée par l'utopie de l'âge atomique, utopie selon laquelle les ingénieurs de l'époque rêvaient d'une électricité si abondante qu'elle serait trop bon marché pour être comptée. Donc son projet, c'est Atoms for Peace. Hein. Atoms for Peace, c'est aussi la devise qui est encore proclamée aujourd'hui sur les pupitres de l'agence à Vienne, Atoms for Peace. Et ils y croient vraiment, hein, les tenants de cette agence. Et, bon, ça, c'est la première idée, donc une utopie nucléaire. Mais la deuxième idée, c'est que, à force de se faire le VRP de l'atome civil, l'agence propage involontairement, certes, la prolifération de matières fissiles hautement dangereuses telles que le plutonium. N'importe qui peut acheter aujourd'hui, ou presque sur Internet, des doses de plutonium pour fabriquer dans n'importe quel petit laboratoire avec 3 centrifugeuses une bombe atomique. Et il se trouve que cette Agence internationale de l'énergie atomique est débordée, car sa mission est à la fois de promouvoir l'atome civil, mais aussi de contrôler la circulation des matières fissiles sur la planète. L'atome pour la paix, c'est pas fait pour faire des bombes atomiques. Elle n'a pas les moyens d'assurer cette mission phénoménale qui consiste à contrôler la mondialisation du plutonium. Son budget annuel est l'équivalent de celui de la police municipale de Vienne, donc un budget d'à peine 300 millions d'euros.
Et qui finance ?
Les États membres de l'agence, au prorata de leur poids politique, à commencer par les États-Unis. Bon, ça, c'est le deuxième point, c'est que c'est une agence, donc, un peu au pied d'argile, et un gendarme, donc, très ambivalent, à la fois VRP et contrôleur, donc, un peu un pompier pyromane. Bon. Et la troisième.
C'est aussi la bête noire des antinucléaires.
Et c'est aussi la bête noire des antinucléaires, absolument. Et justement, j'y venais dans le troisième point, c'est que ce Janus à deux têtes, il est quand même enchâssé dans l'industrie nucléaire. Quand j'étais frappée, d'ailleurs, quand je suis allée à Vienne, de croiser la crème des industriels du nucléaire, des groupes de pression comme la World Association of Nuclear Operations, la WANO, ou bien la WENRA, qui est le réseau des industries nucléaires de l'Europe de l'Ouest. En même temps, ça n'a rien d'étonnant, mais on se rend compte en observant de près cette agence à quel point le contrôleur et contrôlé sont totalement emboîtés au sein de cette agence qui est liée par ailleurs au groupe des fournisseurs nucléaires, une sorte de club des amis de l'atome qui rassemble 46 principaux pays pourvoyeurs de matières fissiles sur la planète. Et finalement, c'est ce groupe de 46 pays et de fournisseurs nucléaires, donc, qui fait en quelque sorte les normes de protection sur les radiations. Et c'est là qu'on rentre dans un autre volet très complexe, qui est celui de la radioprotection. Comment on fixe les normes de protection sur la radio, vis-à-vis de la radioactivité. Ce dossier a ressurgi à l'occasion de la catastrophe de Fukushima, où on a assisté à une banalisation des faibles doses. On avait déjà assisté à ce phénomène après Tchernobyl, et on reconstate cette tendance des institutions ad hoc à banaliser les faibles doses. Donc, en me promenant dans les couloirs des bâtiments de l'AIEA, je suis allée à la rencontre d'un comité tout à fait confidentiel, le comité scientifique des Nations Unies sur les effets des radiations atomiques. Ce comité, dont j'ai eu la surprise de constater qu'il n'employait que 4 personnes à temps plein, est en charge depuis 1955 d'édicter en quelque sorte des politiques de radioprotection. Suite à Hiroshima, d'ailleurs, ce comité a été créé pour observer l'état de santé de cohortes, entre guillemets, on appelait ça des cohortes, donc des groupes humains qui avaient été victimes des explosions d'Hiroshima et Nagasaki. Ce comité suit aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui encore, l'état de santé de ces cohortes. Et au-delà de cette mission initiale, qui date elle aussi des années 50, eh bien, l'UNSCER, ce comité donc scientifique sur les effets des radiations atomiques, aujourd'hui, suit l'évolution de santé des habitants de Tchernobyl et maintenant désormais de Fukushima. Et on attend que l'UNSCER donne des prescriptions un peu claires aux habitants des régions touchées par la catastrophe de Fukushima sur qu'est-ce qu'ils risquent à s'exposer, à quelle dose. Et là-dessus, c'est très confus. Et surtout, ce qui m'est apparu, c'est là aussi la proximité entre ces comités UNSCER. Il n'y a pas que l'UNSCER, il y a aussi la Commission internationale de protection radiologique, la CIPR. Ces comités qui sont connexes à l'Agence internationale de l'énergie atomique sont marqués par une certaine proximité avec le monde nucléaire. Il suffit de regarder la composition du bureau de la CIPR. On trouve EDF, on trouve le CEA, on trouve Rosatom, le groupe russe nucléaire. Donc voilà, tout ce monde est très intriqué, ce monde est opaque, ce monde est peu connu du grand public, et ce monde est chargé de nous protéger de la radioactivité.
Radioactive mama, hold me tight. Radioactive mama, treat me right.
critical mass tonight. Well, when we get together, clear away the crowd. There won't be nothing left except a mushroom-shaped cloud. Radioactive mama, treat me right. Radioactive mama, we'll reach critical mass tonight. Well, your kisses do things to me in oh so many ways. I feel them going through me, all those gamma-gamma rays. Radioactive mama, treat me right. Radioactive mama, we'll reach critical mass tonight. I kissed you, baby, that evening in the park. I lost my hair and eyebrows and my teeth shine in the dark. Radioactive mama, treat me right. Radioactive mama, we'll reach critical mass tonight.
On est avec le diplôme du mois de décembre. L'architecture ferroviaire. Et vous vous inquiétez, Benoît Duterte, de l'évolution de ces aménagements et de ces architectures. Il faut dire que ça a été une innovation formidable, l'architecture des gares. Oui. C'était sans précédent dans l'histoire. Oui. C'était aussi inattendu historiquement que le chemin de fer lui-même. Donc il a fallu inventer une architecture qui aille avec, qui était tributaire évidemment de l'histoire, de la représentation qu'on pouvait se faire du pays. Et bah aujourd'hui, ça change, ça bascule, et c'est ce que vous avez observé.
Oui, les gares étaient même un peu des lieux essentiels dans l'architecture même d'une ville comme Paris, enfin avec ses différentes gares qui ont ouvert les différentes régions de France, les quartiers qui se sont construits autour, la peinture, on pense à Claude Monet, tout ce qu'on veut, évidemment.
Le train bleu, la grande salle, la gare de Lyon.
Bien sûr. Heureusement, d'ailleurs, il reste ce décor extraordinaire là, du restaurant du train bleu, mais c'est vrai que les gares, justement, étaient des lieux très urbain, quoi, pris dans la ville. Pour moi qui ai grandi en province, au Havre, je me rappelle l'arrivée à la gare Saint-Lazare, c'était quelque chose d'un petit peu chaotique comme ça, toute cette foule qui se croisait, tous ces petits comptoirs ouverts sur la salle des pas perdus où on pouvait boire un café ou manger un croque-monsieur à toute vitesse. C'était quelque chose de peu soigné qui donnait sur cette place où il y avait encore des grands cinémas porno là en bas de la rue d'Amsterdam. C'était un vieux Paris, pas élégant, pas récuré, pas blanchi, et la gare encore moins. Mais tout ça était très urbain et ça reliait au fond les centres des villes au centre des villes, ce qui était très très important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors comme je dis dans ce papier, il y a deux tendances. La première, c'est de reconstruire les gares hors des villes, ce qui est quand même justement la fin de la gare urbaine. Moi, je vois derrière tout ça le modèle de l'avion, en fait, le modèle de l'aéroport qui est devenu le modèle pour le train. C'est-à-dire qu'on veut presque un peu nous faire croire que le train a gagné, qu'en France, on défend le train. Mais en fait, c'est un train qui est calqué sur le modèle économique et esthétique aussi du transport aérien, avec toutes ses conséquences, c'est-à-dire d'abord la reconstruction hors de la ville. Alors vous voyez les gares de TGV, d'Avignon, d'Aix-en-Provence, etc., qui sont loin de la ville, et ce qui est encore plus extraordinaire, qui sont pas reliées au réseau secondaire. Hein. C'est-à-dire que ce sont des gares qui sont comme un nouveau réseau, le nouveau CHER, le nouveau à grande vitesse, le nouveau à tarification proportionnelle à la demande, etc., mais qui n'est même pas relié, donc on ne peut pas aller de Aix-TGV à Aix-Centre. C'est deux mondes qui sont complètement séparés, avec ces grandes architectures très très ambitieuses que tout le monde dans les journaux, dans la classe politique, trouve merveilleuses. Mais enfin voilà, ça n'a plus rien à voir avec la gare urbaine. Et puis l'autre tendance, c'est effectivement la reconstruction de la gare sur le modèle de la galerie marchande d'aéroport. Alors, ça n'est plus effectivement l'accumulation de services ou de petites boutiques pas chères, de lieux de restauration réellement rapides et économiques, mais c'est l'arrivée des marques dans les gares, le monde des marques, le monde de l'entreprise, le monde des sigles qui a pris toute la place. Ça a commencé à la gare de l'Est, à Paris, qui a été refaite voici quelques années, avec déjà une amorce de galeries commerciales sur plusieurs niveaux à l'intérieur. Mais aussi la disparition des services, je dirais, très simples, très concrets qu'il y avait devant les quais, comme c'est cette grande brasserie. Alors, comme c'était la gare de l'Est, on y mangeait de la choucroute ou des trucs comme ça, des trucs qui regardaient vers l'Est. avec un personnel abondant, etc. Tout ça est remplacé par des espèces de petits self-service de nourriture. C'est la disparition du personnel. On le voit dans la rénovation de la gare Saint-Lazare, dont je parle, avec aussi ce Starbucks Café, là, qui est vraiment un lieu où on se sert soi-même, où on fait tout soi-même. Les anciens petits kiosques à journaux qui sont regroupés dans des plus grands kiosques, avec là aussi juste un ou deux caissiers qui font qu'il y a une espèce de flux tendu, que tout le monde est toujours à patienter derrière la caisse. Voilà, c'est une des tendances. Et puis, je vous dis, effectivement, la galerie marchande omniprésente, qui a pris la place sur tous les niveaux de la gare Saint-Lazare, vers lesquels vous conduisent les escalators sans autre moyen d'y échapper, puisque la sortie directe sur la place, elle, a été simplement condamnée.
Vous parlez de la gare de Saint-Pancras à Londres, hein, qui est une gare assez extraordinaire, et qui, elle aussi, a été banalisée.
Oui, mais vous savez que l'Angleterre est le modèle de nos élites aujourd'hui, dans tous les domaines. C'était le modèle de Nicolas Sarkozy quand il est arrivé au pouvoir, avant qu'il s'aperçoive que ça ne marchait plus. Mais malgré tout, c'est présent dans les esprits. L'Angleterre est le modèle. Et la gare de St. Pancras a été la première à effectivement se transformer comme ça en espèce de grande galerie marchande, commerciale, assez propre, assez chic. Évidemment, tout ça est beaucoup plus clean aussi. Hein. On refait les vieilles gares, ça a plus ce côté un peu foireux de ces vieilles architectures de métal. Et avec toujours aussi, je dis, ce principe, tout est calqué sur l'avion. Je veux dire, ça a commencé avec la tarification. Vous savez, en France, par exemple, le système Socrate, qui en fait a été racheté à la compagnie American Airlines, hein, qui est un système donc de tarification des trains en fonction de la place qu'il y a dans les trains. Mais aussi dans les gares elles-mêmes, vous voyez, à la gare du Nord, quand vous allez en Angleterre, vous avez un embarquement qui est exactement calqué sur l'embarquement des avions, etc. Donc c'est vraiment le modèle qui est adopté partout. Donc d'un côté, on tient des discours triomphalistes sur le train, l'importance du développement durable, le Grenelle de l'environnement qui avait insisté sur l'essor du train. Et en fait, on fait le contraire puisqu'on rend le train plus cher, moins pratique, avec cette disparition aussi des petites lignes, etc. Tout ça forme un ensemble qui fait que la politique réelle consiste effectivement à rendre le train moins accessible à tout le monde.
Donc c'était mieux avant.
Oui, je dois avoir un petit côté nostalgique dans ma personnalité, mais en même temps, l'idée que ce serait interdit de penser que c'était mieux avant dans tous les domaines m'a toujours paru un peu scandaleuse. Oui, il y a des choses qui étaient mieux avant, et par exemple, je préfère l'ancienne gare Saint-Lazare à la galerie commerciale sur trois niveaux qu'on peut aujourd'hui fréquenter pour faire ses courses de Noël.
Dans le quartier de la gare du Nord, tout le monde connaît Victor. Ce garçon fait un métier très particulier. Il passe les rails de chemin de fer, nuit et jour au papier de fer. Et comme il n'est pas feignant, chacun s'écrie en le plaignant. T'as tort, tu t'uses et tu te tues, pourquoi t'entêtes-tu? Vas-y doucement, presse pas le mouvement, c'est pas normal, tu te feras du mal. T'as tort, tu t'uses et tu te tues, pourquoi t'entêtes-tu? Sois moins pressé, rien n'est cassé, fais ton boulot, piano. Tu perds toutes tes vitamines, regarde un peu ta bobine, t'as pas bonne mine. T'as tort, tu t'uses et tu te tues, pourquoi t'entêtes-tu? En t'entêtant, t'entends, tu te tues et t'as tort. En amour, c'est bien kiff. Totor est un excessif, il n'est jamais à zéro, c'est un bras zéro. Sa moitié ne s'en plaint pas, mais quand elle est dans ses bras, il la serre tellement fort qu'elle lui murmure en perdant le nord. T'as tort, tu t'uses et tu te tues, pourquoi t'entêtes-tu? Vas-y doucement, presse pas le mouvement, c'est pas normal, tu te feras du mal. T'as tort, tu t'uses et tu te tues, pourquoi t'entêtes-tu? Sois moins pressé, rien n'est cassé, fais ton boulot, piano. Tu perds toutes tes vitamines, regarde un peu ta bobine, t'as pas bonne mine. T'as tort, tu t'uses et tu te tues, pourquoi t'entêtes-tu? En t'entêtant, t'entends, tu te tues et t'as tort.
Et ouais, c'est George Milton, d'après nos renseignements, qui chante « T'as tort, tu t'uses et tu te tues, pourquoi t'entêtes-tu ?» Merci à tous et à toutes. C'était notre émission mensuelle avec l'équipe du Monde Diplomatique. Merci à Agnès Sinaï, Benoît Dutertre, Serge Halimi et Alain Grèche. Il y avait également Fanny Doumeyrou. Vous trouverez cette partie de l'entretien sur labas.org en intégralité. Vous retrouvez également toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, et on peut aussi se retrouver sur la page Facebook de l'émission. Vincent Godard et Charles Danet étaient à la technique aujourd'hui. Chloé Sanchez et Lucie Hakoun ont réalisé cette émission préparée avec Grigory Salomonovitch. Et Marion Dupas attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Dis, tu m'emmènes à ta robot partie au Futuroscope ?
Maman, danser avec un robot à 7 mètres de haut dans une ambiance électro-survoltée, tu crois vraiment que c'est de ton âge ?
Oh, s'il te plaît !
Bon, mais tu me promets de pas crier.
La première robot partie par Martin Solveig dans la nouvelle attraction du Futuroscope, c'est pour toute la famille.
Venez vite, jusqu'au 6 janvier. Le séjour est gratuit pour les enfants de 5 à 16 ans inclus.
Futuroscope.
Offre soumise à condition, consultez futuroscope.com. Ouverture de l'attraction dès le 22 décembre.
Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin.
Sur les épaules de Darwin, l'émission culte de Jean-Claude Amezen est devenue aujourd'hui un livre. Ce livre est un voyage. Un voyage à la découverte d'un univers toujours plus riche et mystérieux. Un voyage à la rencontre de nous-mêmes. Sur les épaules de Darwin, un livre de Jean-Claude Amezen, coédité par France Inter.
France Inter et le Théâtre des Bouffes du Nord présentent jusqu'au 15 décembre Molly Bloom. Adapté de la dernière partie du roman de James Joyce, Ulysse, Molly Bloom est la confession d'une femme qui suit le cours tumultueux et impudique de ses pensées une nuit durant. Anouk Grimbert s'empare de cette parole libre et relève le défi d'une écriture qui, relayant la parole d'une femme, se revendique de toutes les femmes. Retrouvez Molly Bloom dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
16h sur Inter, on se retrouve demain à 15h pour là-bas. Si j'y suis, je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Il n'y a pas d'accord secret avec ArcelorMittal qui privilégierait un site plus que l'autre. Jean-Marc Ayrault l'a démenti cet après-midi à l'Assemblée de la façon, dit-il, la plus solennelle. Mais le Premier ministre a confirmé quand même un transfert d'activité du site de Bassindre en Loire-Atlantique vers le site Mosellan. Ça concernera le packaging. Le tribunal de commerce de Rouen rendra sa décision vendredi sur le cas de Petroplus. En jeu, la prolongation de l'activité de la raffinerie de Petit-Couronne en Seine-Maritime. La date du 16 janvier a été avancée. De son côté, Shell a de son côté annoncé qu'il ne prolongera pas son contrat avec la raffinerie au-delà de la mi-décembre, ce qui devrait compliquer encore un peu plus la recherche d'un repreneur. Les syndicats, eux, souhaitent surtout qu'une audience soit fixée rapidement sur le cas de Netoil, dont le dossier de reprise est le plus avancé, selon eux. 97,3% des voix. Angela Merkel a été très largement réélue cet après-midi à la tête de la CDU. C'est d'ailleurs le meilleur score de la chancelière allemande depuis qu'elle dirige l'Union chrétienne démocrate. Une première étape pour Angela Merkel qui brigue un troisième mandat de chancelière aux prochaines législatives qui auront lieu l'an prochain en Allemagne. En Égypte, la police anti-émeute est, elle, venue renforcer la sécurité cet après-midi aux abords du palais présidentiel au Caire. Ce en prévision de la manifestation organisée aujourd'hui par l'opposition pour protester contre les amendements constitutionnels pris par Mohamed Morsi, amendement qui élargit ses pouvoirs, mais également contre le projet de constitution adopté par ses alliés islamistes. Première sortie pour l'A350 aujourd'hui, première sortie du hall d'assemblage pour le nouveau long courrier d'Airbus. Il va pouvoir commencer les essais au sol. Son premier vol est programmé pour la mi-2013. Sa mise en service est prévue, elle, pour la fin 2014. Le millier de salariés de General Motors de Strasbourg va connaître le chômage partiel, 28 jours pour le premier semestre 2013 selon les syndicats aujourd'hui. La direction de General Motors a expliqué que les volumes de production sont actuellement insuffisants au regard des effectifs. France Télévisions impose à France 2 30 millions d'économies sur sa grille des programmes l'an prochain. Il s'agit d'un effort important lié au plan d'économie qui va toucher le groupe public, a expliqué aujourd'hui le directeur de la chaîne. Sur France 3, les premiers changements arriveront mi-mars. Le soir 3 va changer de formule. Il durera une heure du lundi au jeudi. Il y aura plus de place accordée au débat et cela va induire des évolutions de grille tout en faisant des économies, a expliqué pour cette fois le président de France Télévisions, Rémi Pfimelin. Les ventes de gaz naturel ont reculé l'an dernier de 7% en France, selon le Commissariat général au développement durable. Aujourd'hui, cette baisse est due aux conditions climatiques. 2011 a en effet été l'année la plus chaude depuis 1900. Un an après son lancement, bilan mitigé pour Autolib à Paris, selon une enquête publiée aujourd'hui par la CLCV, Association de défense des consommateurs, les voitures électriques en libre-service dans la capitale semblent peu utilisées, 2,8 personnes par jour et par véhicule en moyenne. Pour les utilisateurs interrogés, Autolib est plus vu comme un substitut au transport collectif plutôt qu'une alternative à la voiture individuelle, contrairement à ce qu'espéraient Paris et le groupe Bolloré. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Cette semaine, dans le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit le groupe Trio.
Britney Spears au Vatican, Jeff Koons à Versailles. C'est le cocktail fatal.
HK et les Saltimbanques.
Les temps modernes, on se démène, on s'engraine tous à la chaîne.
Et Honda Tropica.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous mercredi à partir de 18h devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter.
La voix est libre.
Les choses sérieuses commencent, Frédéric Lodéon.
Pas tant que ça, vous allez voir. Merci Laetitia Gaillet. On vous retrouve tout à l'heure à 17h.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Alors, il a osé, il s'appelle Avital et il joue Jean-Sébastien Bach, très bien, beaucoup le font, mais sur quel instrument ? Sur une mandoline, eh oui, une mandoline particulièrement soignée, construite par un luthier proche du virtuose, Arik Kerman. Et Avital, il défend ce point de vue, d'ailleurs il dit que la mandoline est accordée comme le violon, donc reprendre des concertos pour le violon de Bach, ça n'est pas vraiment gênant. Et puis il est vrai que Jean-Sébastien Bach lui-même transcrivait beaucoup. Alors moi j'étais un peu sceptique, et puis finalement, ça sonne très bien, il y a des passages tout à fait probants. Et un critique tout à fait affirmé dans le domaine baroque, dans un beau journal, dans Diapason, a dit que c'était d'ailleurs formidable. Alors, lançons-nous pour la première fois sur cette antenne de France Inter un concerto de Bach, celui en la mineur qui a été écrit à l'origine pour le violon, transcrit pour mandoline et interprété par Avital.
Thank you.
Jean-Sébastien Bach, concerto en la mineur à l'origine pour violon, transcrit pour mandoline et interprété par la même personne, Avi Avital, qui jouait simplement avec l'orchestre Kammerakademie de Potsdam, donc un orchestre très réputé. Et c'est du Bach, oui, ça sonne vraiment comme du Bach, mais c'est vrai que cet auteur supporte toutes sortes d'instruments et il a une telle structure qu'on peut le jouer, quand on a du talent, évidemment, avec beaucoup, beaucoup de timbres différents.